parole à Aurélie Trouvé pour Attaque.
Donc, bonsoir à tous. Je voudrais d'abord revenir sur le fait qu'effectivement, ce traité n'est ni simplifié et ce n'est absolument pas un mitri-traité. D'abord parce qu'effectivement, c'est le frère jumeau du traité constitutionnel européen, mais aussi parce que ce traité est absolument illisible. Je ne sais pas si certains d'entre vous dans la salle ont tenté de se pencher sur ce nouveau traité européen. Est-ce que certains ont tenté ici?
Oui.
Je peux vous dire, vraiment, bon courage, il va falloir vous avaler près de 300 modifications, et pour cela, vous appropriez les deux traités antérieurs, vous appropriez également des dizaines de protocoles et de déclarations. Alors oui, et je crois que peut-être le seul avantage du traité constitutionnel européen, c'était d'être beaucoup plus lisible ici qu'ici, et là, effectivement, c'est totalement illisible, et la ministre belge des Affaires étrangères le dit elle-même, c'est un succès, car ce traité, il est illisible. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit bien évidemment d'éviter tout débat public citoyen sur ce passage en force, sur cette arnaque réalisée par les chefs d'État et de gouvernement. Alors, comment faire ce passage en force? D'abord par une série de mensonges, une série d'idées fausses. Alors, on commence évidemment par dire que le principe de concurrence libre et non faussée est enlevé des objectifs alors qu'il est réintroduit par le biais d'un protocole. On va dire ensuite que les services publics se trouvent protégés dans ce traité, alors qu'ils restent totalement soumis aux droits de la concurrence qu'on retrouve dans les articles. Et en particulier, c'est ça qui, cette année, a permis la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz. C'est ça qui fera qu'en 2011, on aura la libéralisation des services postaux. Alors, une série de défausses encore. Par exemple, sur la charte des droits fondamentaux, on nous dit que cette charte sera contraignante alors qu'elle est totalement vidée de sa substance. Et comme ça ne suffit pas, eh bien, le Royaume-Uni et la Pologne s'en trouvent exclus. Enfin, ils ont demandé à ne pas y répondre. Alors voilà la nouvelle Europe. Quand il s'agit de libre-échange, tout le monde y répond. Quand il s'agit de social ou d'environnement, eh bien là, c'est à la carte. Alors, ce droit de la concurrence, il va rester central dans ce traité, c'est clair, puisque en particulier, il est dit que pour ce qui concerne les échanges, c'est confirmé, il faudra une levée de tous les obstacles. Et ça va même encore plus loin que le traité constitutionnel européen, puisqu'on nous dit ici qu'il va falloir aussi lever les obstacles aux investissements directs étrangers, mais aussi, et il est dit, aux autres obstacles. Qu'est-ce que c'est ces autres obstacles? Eh bien, c'est par exemple tout ce qui va concerner la protection des consommateurs ou tout ce qui est du ressort des considérations environnementales. Donc voilà ce que nous promet ce nouveau traité. Alors je voudrais finir sur une chose, c'est que quel que soit ce résultat de cette campagne, je crois qu'il est extrêmement important de remettre l'Europe au cœur du débat citoyen. Pourquoi? Parce que d'abord on a une série d'échéances qui nous attendent. Il y a la présidence française de l'Union européenne au second semestre 2008. Il y a ensuite les élections européennes en 2009. Et il faut que ces moments-là puisse être un grand moment de débat public sur l'Europe. Il faut que ce soit un grand moment de débat public également sur les politiques européennes qui découlent de ces traités, sachant que les politiques aujourd'hui nationales de précarisation, tu l'as dit Yves, sont extrêmement liées à ces politiques européennes. On nous prépare en particulier un démantèlement du droit du travail, c'est le livre vert qui vient de sortir de la Commission européenne. On nous prépare d'autres libéralisations des services publics, et toute une série d'accords bilatéraux de libre-échange, notamment avec les pays les plus pauvres de la planète. Et c'est actuellement le cas des accords de partenariat économique qu'on tente de faire subir aux pays Afrique, Caraïbes, Pacifique. Alors oui, on a du travail pour s'opposer, et je crois qu'on a aussi du travail en matière d'alternatives. Car il est important de s'opposer, mais aussi de proposer. Je crois que là, il va falloir aussi mettre en avant toutes les alternatives qu'on propose pour une autre Europe qui soit une Europe de solidarité entre les citoyens, et ça veut dire en particulier entre les citoyens européens, harmonisation sociale, harmonisation fiscale, une Europe écologique et une Europe démocratique. Avec un minima démocratique aujourd'hui, c'est l'exigence de ce référendum. Car s'il n'y a pas de référendum mais un passage en force par voie parlementaire, ce sera encore un peu plus un écart entre les citoyens et la construction européenne. Nous battre pour des alternatives, et je crois qu'il faudra le faire non seulement à un échelon national, mais aussi à un échelon européen. Parce qu'aujourd'hui, si on veut peser sur le cours des choses, et je crois que là, c'est tout notre objectif, il faudra le faire aussi au niveau européen. Il faudra construire des rapports de force entre les mouvements, entre les syndicats, les associations, les partis politiques, pour aller de l'avant et pour imposer nos alternatives face à ces politiques européennes. C'est en tout cas l'objectif du mouvement intermondialiste que de dépasser ses frontières nationales, de dépasser ses frontières nationales pour convaincre et pour proposer pour une autre Europe, l'autre Europe que nous voulons, écologique, démocratique et solidaire.